Pour emporter France Bleu partout avec vous, pour réagir aux émissions, s'informer, se divertir, téléchargez la nouvelle application mobile France Bleu. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. 0810 055 056.
Deux Français sur trois ont une bonne image des profs parce qu'ils nous ont transmis l'amour d'une matière, le goût d'apprendre, confiance en nous ou une passion qui accompagne notre vie. Alors, pourquoi avez-vous aimé particulièrement un prof? Vous nous le dites ce soir au 0810 055 056. Et puis il y a le prof qui nous a traumatisés, le prof qui nous a fait détester l'école, les maths, le prof sadique qui ne nous aimait pas, qui nous humiliait, qui nous punissait, qui nous tirait les oreilles. Notre grand témoin fait partie de la première catégorie a priori parce qu'elle aime ses élèves. Elle a même écrit un livre qui leur est dédicacé, Prof jusqu'au bout des ongles. Bonsoir Julie Van Rekem.
Bonsoir.
Vous êtes donc prof d'histoire géo en REP, Réseau d'éducation prioritaire, les anciennes ZEP. Vous tenez aussi un blog de votre vie de prof, c'est-à-dire si vous vivez votre métier. Alors, c'est vrai qu'on se souvient toute notre vie de certains profs. Pourquoi est-ce que nos profs nous marquent autant ?
Peut-être parce que la plupart d'entre eux se consacrent réellement, pleinement à leur métier et essaient de faire, de donner une bonne image de l'adulte et puis donner de l'espoir aux enfants qu'ils ont en face d'eux en leur disant « Non mais si, ça vaut le coup de se battre et d'apprendre des choses. » Voilà.
Ça, donc, c'est pour les profs qu'on a aimés, qu'on a adorés.
Qu'on a adorés. Peut-être les autres, c'est aussi un peu comme les parents qui sont très exigeants et qui disent « C'est pour ton bien. » Les professeurs qui sont très, très exigeants, c'est pour votre bien, c'est pour que vous soyez de meilleurs adultes, etc. » Ça, c'est la version positive.
Et est-ce que c'est parce que c'est une période de notre vie, l'enfance, l'adolescence, où on est particulièrement fragile ou influençable ?
Tous les adultes qu'on va rencontrer en tant qu'adolescent et en tant qu'enfant vont nous marquer. Et quand on est élève de 6e, par exemple, on est 26 ou 28 heures face à des professeurs. Donc, ils vont nécessairement nous marquer.
Et on s'en rend compte de l'influence qu'ils ont sur nous quand on est sur les bancs de l'école ?
Je ne suis pas sûre. Ça, c'est quelque chose dont j'ai l'impression que c'est quand on est un peu plus grand qu'on se souvient en racontant avec les copains « Ah, tu te souviens de tel prof, etc. Elle faisait sexe. » Et là, c'est là où on se dit « Mais finalement, elle m'a quand même beaucoup marqué parce que 10 ans, 15 ans plus tard, je me souviens d'elle. » Et je pense que vous aussi, vous vous souvenez peut-être d'un nom, d'un prénom, d'un instituteur, d'un professeur des écoles ou d'un professeur de 6e ou de 5e, alors que ça fait peut-être déjà 15 ans, 20 ans, etc. Il y a des profs comme ça qui ont laisser une trace.
Et puis c'est vrai que nos profs ont le pouvoir de changer nos vies, presque de nous sauver parfois, ou alors au contraire de nous couler. Est-ce qu'on se rend compte de cette importance, de cette presque toute puissance quand on est prof ?
Oui. Alors là, oui, on s'en rend compte et c'est quelque chose avec lequel il faut faire... Il ne faut pas jouer avec ça et en même temps il faut en jouer un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une part de, on va dire, de manipulation gentille, c'est-à-dire on peut être amené à dire à un élève, là franchement si tu me le rends pas ce devoir, je serais vraiment déçue. C'est du chantage affectif, mais en même temps on a un petit regard gentil, un petit sourire et l'élève se dit, bon ok quand même, hein, c'est ma prof, je vais faire attention, voilà.
Les profs que vous avez adorés, les profs que vous avez détestés, vous nous racontez vos souvenirs sur France Bleu jusqu'à minuit. C'est parti, 0810 055 056, venez témoigner.
Vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
On se dit tout sur les profs qui ont marqué notre vie, sur les profs qui étaient géniaux ou les profs qui nous ont traumatisés. Au 0810 055 056, vous venez partager vos souvenirs avec nous. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
Dans le Loir-et-Cher, comme dirait la chanson, hein Mélanie.
Voilà, c'est ça.
Alors Mélanie, vous avez quel âge, je peux vous demander ?
Oui, 31 ans.
Donc voilà, vos souvenirs remontent à quelle époque vous vous souvenez des premiers profs que vous avez eus, d'une maîtresse d'école ? Quels sont vos souvenirs ?
Mon premier souvenir remonte tout particulièrement au collège avec mon prof de musique. Parce que à cette époque-là, mes parents divorçaient et du coup, c'est une période que j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Et puis voilà, c'est l'adolescence aussi, donc il y a plein de choses dans ma tête que j'arrivais pas à accepter. Et la musique, en particulier le chant pour ma part, ça m'a beaucoup aidée à surpasser tout ça, à accepter, ou du moins à avancer dans la vie, on va dire, et puis à aller à l'école aussi. Et puis je me rappelle, je passais mes récrés entières dans la salle de musique avec les copines, avec le prof. Enfin voilà, c'était super.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce prof, Mélanie ?
Il était passionné, je sais pas, ça se ressentait. On faisait, en fait, il y avait une chorale qu'on pouvait faire au sein de la crèche. et aussi ce qu'on appelait l'option musique, on pouvait faire des comédies musicales. Et je sais pas, il avait une façon de faire pour vraiment transmettre sa passion pour les instruments de musique, pour ceux aussi qui chantaient. Donc moi, c'était plutôt chanter.
Et voilà. Quelle était sa méthode, Mélanie? C'était quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'enthousiaste. Il faisait comment pour vous transmettre sa passion?
Bah oui, c'était ça. Il était gentil, enthousiaste. Enfin, c'était exactement ça, oui. Je ne sais pas vraiment décrire, mais pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très vivant, très... Je sais pas, c'est vraiment le mot passionné qui me sort le plus et que je ressentais le plus. Et puis peut-être aussi, oui, à l'écoute des élèves. Voilà.
Et quand vous dites à l'écoute, Mélanie, vous parliez des soucis que vous aviez, vos parents qui divorçaient, vous en avez parlé avec lui ou c'était purement la musique?
Non, c'était purement la musique. Non, ça, à l'époque, j'en parlais pas. C'était purement la musique.
Et dans une phase où vous auriez pu être dégoûtée de venir à l'école, finalement, lui vous donnait envie de venir tous les matins?
Oui, parce que c'était une période où moi, l'école, je n'aimais pas du tout. Et ça m'a... Enfin, la musique, c'était vraiment un peu mon seul... point de repère, on va dire, allez, c'est bon, il y a la musique, il y a la chorale, allez, c'est bon, je vais à l'école, voilà.
Il y a chansons qui vous ont marqué, des chansons, je sais pas, que vous avez chanté dans son cours, qu'il vous a fait découvrir?
Bah, Starmania, il y a une époque aussi où, justement, on a fait Balavoine, on a fait Notre-Dame de Paris, on a fait beaucoup de choses très variées en musique, enfin, c'était vraiment génial.
Et des choses que vous ne connaissiez pas, que vos parents ne vous avaient peut-être pas transmises au niveau des chanteurs, des chansons, des univers?
C'est pas bon ventre, mais je connais quand même, enfin, mes parents m'ont fait écouter quand même pas mal de choses, donc je dirais plutôt à l'époque c'était un peu Polnareff que je connaissais pas trop.
D'accord.
Et puis, comme je suis fan de Bito, voilà, ça tombe bien, au final, c'est voilà. Que je n'ai plus.
L'héritier de Polnareff.
Voilà.
Mélanie, vous aviez de bonnes notes en cours de musique?
Oui, en cours de musique, oui. Pas forcément les autres matières, mais oui, la musique, oui.
Donc c'était le bon souvenir de vos années collège.
Un super souvenir génialissime, vraiment du collège. Et j'ai même, pendant quelques années après le collège, je continuais des fois à venir voir mon prof pour lui dire bonjour, pour voir le spectacle aussi qu'il continue à faire avec les collégiens, parce que j'avais un peu du mal à lâcher le truc, même s'il y était plus, mais... Voilà.
Julie Van Rekem, on parle de l'adolescence, de ces moments difficiles, du divorce de ses parents. Est-ce que l'école, et puis particulièrement un cours, un prof, ça peut être un refuge pour un jeune qui a des soucis à la maison?
Alors justement, j'en parle dans le livre. Pour moi, ça a été un refuge et je le vois aujourd'hui comme ça. Dans le moment de l'adolescence, qui est quand même un moment assez atroce pour à peu près tout le monde, c'est quand même le seul lieu stable qui ne bouge pas, même s'il y a un divorce, même s'il y a un décès, même s'il y a une maladie, c'est le lieu stable. Les profs sont là, les copains sont là, même si on change de classe, ils sont toujours là. Il y a un cadre, c'est en réalité un lieu qui doit être et qui est quand même, dans la plupart des cas, relativement stabilisant. Après, il y a des établissements où ça peut dysfonctionner, il peut y avoir des problèmes, mais normalement, c'est quand même un lieu où on vient, on n'a peut-être pas envie d'aller en cours, mais on a envie de rentrer dans la cour, par contre, au moins là, et d'y être bien. J'ai des élèves qui décrochent, ils ne viennent pas en cours, mais ils sont dans le collège quand même. Hein. Ils tournent dans les couloirs, ils se retrouvent entre amis, etc.
C'est un repère, c'est un foyer.
Exactement, c'est le seul lieu stable, sans doute, d'une partie de leur vie.
Mélanie, on imagine que votre ancien prof de musique vous écoute ce soir sur France Bleu. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, comme ça, une quinzaine d'années après?
J'ai envie de lui dire merci, j'ai envie de lui dire que j'ai vraiment des merveilleux souvenirs de cette période-là avec lui, et que c'était super. C'est Monsieur Jean-Claude Chevillon, qui a plein de, j'imagine, de gens qui doivent connaître parce que j'étais au collège de La Ferté, maintenant il est à la retraite. Et voilà.
Ça vous arrive de penser à lui encore aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
La preuve, oui, ce soir. Preuve. Merci pour ce joli témoignage, Mélanie. Merci d'être venue partager vos souvenirs avec nous sur France Bleu. Les profs qui ont marqué nos vies, on continue à en parler. 0810 055 056.
Jusqu'à minuit, on se dit tout sur France Bleu, Corentine Feltz.
Saviez-vous qu'il existe depuis peu la fête des profs en France? Ouais, depuis l'année dernière exactement. Est-ce que vous savez qu'il existe même une journée mondiale des enseignants? Preuve de leur importance dans notre vie, dans celle de nos enfants aussi bien sûr. Alors venez parler des profs qui vous ont marqué ce soir sur France Bleu. 0810 055 056. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Quel âge as-tu Anaïs?
16 ans.
Donc t'es au lycée?
Oui.
En quelle classe?
Première.
Première en Normandie, ça se passe comment la première Anaïs?
Ça va.
Quels profs t'ont marqué alors pendant ta scolarité?
Alors, mon premier professeur qui m'a marqué, ça a été en quatrième, ma professeure de français, Madame Levidou. Mmh. Elle m'a encouragée à continuer dans l'écriture parce qu'elle voyait que j'étais vraiment à fond dedans au niveau des rédactions. Et le second professeur qui m'a marqué, c'est Madame Sager l'année dernière. Donc j'étais en seconde et elle m'a totalement aidée dans mes projets.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, Anaïs, d'avoir déjà en quatrième une prof de français qui s'intéresse à toi?
Franchement, je trouvais ça plutôt bien. Enfin, c'était aussi inattendu parce que, enfin, pour moi, j'écrivais, mais sans plus, quoi.
Et comment elle t'encourageait, alors?
Elle me disait de continuer. J'avais de bonnes appréciations.
Elle te disait que tu étais douée, que tu écrivais bien.
Oui.
Et qu'est-ce que ça t'a fait? Tu t'es sentie en confiance, du coup, et tu as suivi ses conseils?
Oui, totalement.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard, quand tu étais donc en seconde avec cette autre prof de français, Anaïs?
Alors, avec Mme Sager, j'ai commencé à écrire des poèmes l'année dernière. Mmh. J'ai fini par le montrer sur les conseils d'une de mes amies. Et de là, en fait, elle m'a totalement accompagnée, c'est-à-dire que j'ai pu terminer mon premier recueil de poèmes, qui a été publié sur le projet du Florilège des écrivains de l'Académie de Montpellier.
Bravo.
Oui.
Sans ces deux profs-là, sans ces deux rencontres, Anaïs, ça aurait été différent?
Je pense, parce que c'est passé d'autres choses en plus. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Tu passais du temps avec ces profs-là, peut-être en dehors même des heures de cours?
Pas tant que ça, en fait. Enfin, j'étais là à leur cours, je suivais, des fois je leur demandais des conseils et c'est vrai que ça m'a aidé.
Et est-ce qu'aujourd'hui tu leur as montré à toutes les deux ton recueil de poésie?
Oui, tout à fait.
Tu étais...
celle de ma seconde a même pu me suivre au niveau de mon second recueil et de mon premier roman. Donc ça allait loin.
Donc tu étais fière de leur montrer ton travail alors?
Tout à fait.
Bravo Anaïs pour, j'imagine, tout ce talent et de continuer dans cette voie. Tu penses que ça va forger un petit peu ce que tu vas faire plus tard comme métier?
Tout à fait. Parce que de base, je voulais être écrivaine, mais j'étais pas sûre de mon talent. Et maintenant, j'ai mon premier roman qui est sorti et je continue.
Anaïs, écrivain ou écrivaine, donc, si tu préfères. Bravo Anaïs, c'est une belle histoire encore une fois. Julie Van Rekem, est-ce qu'on sait en tant que prof qu'on peut faire naître des vocations comme ça, carrément, des envies de métier, pousser les enfants, les ados?
Je crois qu'on en rêve tous un petit peu, pas forcément côté Pygmalion, on n'a pas forcément envie qu'ils deviennent profs, mais vraiment de voir nos élèves s'épanouir, hein, les voir heureux revenir. Moi, je sais qu'une de mes premières élèves qui m'a retrouvée il y a quelques temps sur Twitter, ma première classe, m'a dit, j'ai fait de la menuiserie, après je suis allée en ébénisterie, etc. Et elle s'éclate, hein. Voilà.
Anaïs, tu as des contacts avec ces profs-là par Facebook, sur des réseaux sociaux?
Oui, la première je l'ai sur Facebook et la deuxième par mail et on se voit au lycée.
Merci Anaïs pour ce joli témoignage et plein de bonnes choses pour la suite.
Merci, au revoir.
Bonne soirée. C'est Jean qui nous rejoint maintenant. Il a une belle histoire à nous raconter, Jean. Bonsoir, Jean.
Oui, bonsoir, Corentine. Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs.
Alors, Jean, racontez-nous, vous êtes à Strasbourg.
Oui. Je ne pense pas être un cas unique dans mon histoire, mais c'est quand même une histoire qui marque la jeunesse. L'histoire, elle est simple. J'avais mon papa comme instite dans deux cours.
Ah oui, ça.
Un cours moyen 1 et cours moyen 2. Moi, bon, j'étais pas la seule. Il y avait les frangines aussi qui sont passées par ces par ces cours. Alors forcément, ça marque. Hein, quand vous avez 9-10 ans, avant de rentrer au collège en sixième, ben bien sûr que dans un petit village en plus où tout le monde se connaît, ben il faut être à la fois être le modèle et faut être aussi être quelqu'un d'un peu neutre vis-à-vis du papa et lui aussi vis-à-vis de moi. Alors c'est une situation un peu particulière dans la mesure où ben on ne sait pas trop comment l'appeler. Est-ce qu'on l'appelle papa, est-ce qu'on l'appelle monsieur, est-ce qu'on l'appelle maître, voilà. Donc ça crée un peu des ambiguïtés de ce sens, dans ce sens.
Alors justement, Jean, comment il se comportait avec vous, votre papa, votre instite?
Alors ben bizarrement, il était tout à fait objectif. Il se comportait comme le maître d'école, voilà.
Et ça vous allait?
Et ça m'allait très bien. Et moi, je me comportais comme l'élève qui lève le doigt, qui attend son tour pour être interrogé.
Et vous n'aviez pas envie d'être un peu favorisé de temps en temps, Jean? Un peu chouchouté?
Si, parfois, on se dit, bon, on sent que on passe toujours en dernier.
Et oui, pour ne pas être favorisé, justement.
Alors, Corentine, je vais vous avouer quand même, on se disait, pourvu qu'il ne me fasse pas venir au tableau.
Et vous aviez envie de lui plaire, d'être un bon élève, de le satisfaire?
Je tenais à ce qu'il soit objectif, à ce que il n'y a pas de favoritisme, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe sinon avec les copains? On se fait mettre un peu. Si on est un peu mis sur un piédestal, on se fait un peu mettre de côté vis-à-vis des copains. Vous savez, quand c'est dans un petit village où vous avez à peu près vous êtes à 25 dans le cours, tout le monde se connaît. Vous faites du foot avec les petits copains. On avait un peu peur de ça, de se dire. Finalement, s'il me privilégie trop, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pas être isolé par rapport aux copains?
Et ça n'est pas arrivé, Jean? Vous n'aviez pas de remarques, de moqueries, toi, le fils du prof?
Franchement, il n'y a pas eu ça. Hein. On était chacun dans notre rôle et une fois que la porte de l'école était passée, hein, on habitait un logement de service à 20 marches au-dessus. En plus.
Alors Jean, Julie Van Rekem, qui est notre grand témoin ce soir, qui est prof d'histoire géo, vous écoute attentivement et elle voulait réagir. Julie.
Oui, je voulais réagir au témoignage de Jean parce que mon papa a été mon professeur pendant 4 ans au collège. Donc c'est une situation, ce que Jean décrit, je le comprends très bien et il le dit avec les bons mots, c'est-à-dire qu'au final, tout le monde a un petit peu peur qu'il y ait du favoritisme ou quoi que ce soit, mais un prof reste un professeur, donc quelqu'un de professionnel. Et l'enfant sait très bien ce qu'est être un élève et ce qu'est être un enfant. Et ce qui fait que je me souviens très bien qu'en rentrant en classe, mon père prenait sa posture de professeur et moi je prenais ma posture d'élève. Et donc il n'y avait aucune ambiguïté. Et même du côté de mes camarades... En fait, l'ambiguïté, elle était en début d'année. On se disait, bon sang, qu'est-ce qui va se passer? En fait, non, c'était évident. J'étais élève, il était prof, point.
C'est peut-être lui, du coup, qui vous a donné envie de devenir prof.
Oui, oui, il y a quelque chose, je pense, là, dans le fait de voir mon père agir en tant qu'acteur, la capacité à se dire, ce qui se passe en classe reste en classe, ça ne me touche pas dans ma vie personnelle, et d'être capable de dire, je me passionne pour mon métier, je m'enthousiasme pour mon métier, quelles que soient les relations avec les collègues, quelles que soient les relations avec les élèves. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est ma discipline, mais aussi le métier d'enseigner.
Et Jean, vous alors, ça vous a donné envie d'être prof aussi?
Absolument pas. Par contre, j'ai gardé un peu ce côté-là, dans la mesure où j'aime transmettre un savoir.
Voilà, ouais.
Donc je suis dans le milieu hospitalier, je suis infirmier de bloc opératoire. Mais je transmets ce savoir et puis je fais du journalisme, j'écris, je fais de la photo, je suis un peu entre guillemets collègue avec vous, Corentine, puisque je suis animateur radio mais bénévole.
Très bien.
Donc, j'anime une radio de sport.
Donc oui, de toute façon, voilà. Quoi que vous fassiez, vous êtes dans le contact humain.
J'ai ce côté, je suis resté un peu dans cette communication qui lui m'a transmis, puisque lui aussi, c'est un métier de prof, c'est un métier de communication. Et c'est vrai que, comme disait madame, c'est vrai qu'on a ce côté, on a notre position, lui il a la sienne. En plus à l'époque, ça remonte quand même à 40 ans, hein. C'était encore la blouse de l'instit, blanche ou bleue, hein, donc ça marquait un peu le rôle de l'instit, le rôle du prof. Et donc voilà, maintenant c'est vrai que je vous cache pas qu'on a été plus ou moins, j'ai été plus ou moins tenté par regarder les devoirs ou les futurs cahiers mensuels à faire. Hein, les,
voilà, quand même, il y a des traces quand même.
On va quand même, on va l'avouer quand même. Il le sait, hein, s'il m'écoute ce soir, il le savait. Mais il, voilà, donc ça, on a tous eu ces tentations-là. Quand on devait passer en sixième, bah, il y avait les cahiers mensuels qui partaient, il y a les devoirs qui partaient en sixième pour être évalués.
Oui, forcément.
Voilà. Donc voilà, mais autrement, ça c'est, on garde un souvenir. On garde, il y a eu forcément des petits moments difficiles où on a eu des mauvaises notes. Hein, je le cache pas, il m'a donné des mauvaises notes, mais il m'a donné des bonnes notes. Donc de ce côté,
voilà, il vous a traité comme un élève, comme voilà, les autres. En tout cas, merci d'avoir partagé ces jolis souvenirs avec nous sur France Bleu. Jean, merci de nous écouter à Strasbourg. Continuez à nous raconter vos profs pendant votre enfance, pendant votre adolescence, ceux qui vous ont marqué. On en parle jusqu'à minuit sur France Bleu au 0810 055 056.
Jusqu'à minuit, on se dit tout sur France Bleu. Corentin Feltz.
Les pires punitions infligées par un prof. Vous avez des souvenirs de ça au coin, avec un bonnet d'âne peut-être, 300 lignes à copier, un coup de règle sur les doigts. Vous nous racontez vos souvenirs ce soir sur France Bleu, 0810 055 056. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Vous êtes en Seine-Maritime, Françoise ?
Oui, oui, oui.
On a eu beaucoup de témoignages pour l'instant de gens qui avaient adoré leurs profs, des profs qui avaient marqué de façon très positive leur vie, leur scolarité. Vous, Françoise, c'est l'inverse.
Ah oui, moi je vous parle de ça depuis plus de 50 ans, hein, ce qui s'est passé.
Ça veut dire que vous êtes encore marquée alors, Françoise ?
Ah oui, j'y pense encore, oui.
Alors racontez-nous.
Il y a certainement d'autres copines que je pourrais voir à l'époque qui y pensent aussi. Bah, disons que on avait couture à cette époque-là. Moi, j'étais peut-être en cinquième. Et on avait une prof très, très sévère et elle supportait aucun bruit. Donc, les ciseaux, fallait les mettre sur un cahier pour pas faire de bruit quand on les posait. On avait le mettre autour du cou. Et bon, c'était l'obligation d'avoir un dé, et puis elle nous le demandait, on s'y attendait pas, quoi, fallait toujours avoir un dé. Mmh. Et puis bon, bah c'était pas tellement de la décontraction que pendant l'heure de couture, on avait hâte que ça se termine.
Mais comment elle réagissait? Elle vous punissait? Elle était brusque?
Ah ben, il y avait des punitions, et puis on la craignait rien que... À la voir physiquement, elle était...
Elle ressemblait à quoi, Françoise?
Bah, elle avait un air très sévère. Hein. Mmh. Et même, bon, les autres cours, les garçons, même les garçons, ils la craignaient. Hein. On n'entendait aucun bruit. D'abord, à l'époque, c'était pas pareil du tout que maintenant.
C'était en quelle année, Françoise, à peu près?
C'était dans les années 63, 64.
Ouais, donc à l'époque, les profs avaient plus de liberté, on va dire, qu'aujourd'hui pour...
Oui, bon, bah, les garçons, ils allaient à d'autres activités pendant ce temps-là. On se retrouvait pour les autres cours, mais... Ah oui, c'était très dur. Puis on avait la blouse, tout ça, c'était la blouse obligatoire.
Ouais. C'était surtout psychologique, alors, en fait, cette tension avec cette prof-là. Hein.
Oui. Oui, cette prof-là, elle nous a marqués. On la craignait beaucoup.
Incroyable, vous vous souvenez de son nom, vous vous souvenez de son visage,
oui.
Vous avez des souvenirs précis.
Oui.
C'est incroyable quand même. Oui.
Son nom, son visage, oui, oui.
Julie Van Rekem.
J'ai une question pour Françoise. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Je comprends bien la situation que vous décrivez. Je me pose une question. Est-ce que ensuite vous avez continué à faire de la couture ou est-ce que vous en faites encore parfois ou est-ce que l'activité est devenue quelque chose qui
vous avez rejeté complètement
que vous avez rejeté, oui.
J'en fais par obligation.
D'accord.
Et quand vous êtes derrière votre machine à coudre, ouais, vous pensez à elle, Françoise?
Non, déjà, non, pas la machine à coudre, mais des petits points comme ça. Ouais. Mais...
Bon, elle n'a pas... Elle a
j'en
pas...
fais pas à ce point-là à penser à elle, parce que je l'avais dans d'autres cours, en maths, histoire,
en plus.
Géo, tout ça.
Oh là là.
Bon, elle... moi, je trouve que... On perd nos moyens.
Ouais.
C'est pas une bonne solution d'être sévère comme ça.
Alors, on est impressionnable à cet âge-là en plus, Françoise.
Oui, 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 oui.
En tout cas, elle n'a pas fait naître de vocation chez vous.
Ah non, non, elle n'a pas fait net. Non, non, je ne suis pas dans la couture.
Merci en tout cas pour votre témoignage, Françoise. Passez une belle soirée sur France Bleu. Continuez à nous écouter. On échange nos souvenirs autour des profs ce soir sur France Bleu jusqu'à minuit. Julie Van Rekem.
Une intervention sur la sévérité, justement. Oui. Une des grandes difficultés du métier de professeur, c'est de distinguer ce qui est du domaine de l'autorité et ce qui est du domaine de l'autoritarisme. C'est-à-dire être autoritaire, c'est en fait ne pas avoir suffisamment de moyens pour avoir de l'autorité. Avoir de l'autorité, c'est pouvoir rentrer dans une classe, sortir ses affaires, faire rentrer les élèves et puis attendre qu'ils se mettent dans une position d'élève sans avoir à lever la voix, sans avoir à leur dire. L'autoritarisme, c'est leur dire « Vous sortez vos carnets, vous faites ce que je vous dis, vous vous taisez, je ne veux pas entendre quoi que ce soit. » Là, vous avez tout perdu.
Là, c'est du mépris.
Et 50 ans plus tard, vous avez des personnes qui pensent encore à ces professeurs en se disant « Un frisson dans le dos. »
Incroyable. Hein.
C'est terrible.
Venez justement échanger avec nous vos souvenirs sur France Bleu. On vous attend au 0810 055 056. On parle des profs ce soir.
Parcours de vie, on les partage tous les soirs sur France Bleu jusqu'à minuit. On se dit tout.
Et c'est Julie qui nous rejoint. Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir Corentine.
Bienvenue dans On se dit tout Julie. Alors, expérience heureuse avec les profs ?
Expérience heureuse, effectivement.
Racontez-nous voilà. Tout. Vous êtes où déjà en France ?
Alors en fait, moi je suis à côté de Nancy, je suis originaire d'un tout petit village qui s'appelle Pierreville.
D'accord, donc c'est à l'école de Pierreville que vous avez croisé l'instituteur
Non, c'est un regroupement scolaire qui comptait Pierreville, Oudelmont et Paray-Saint-Césaire.
D'accord.
Et c'est à la petite école primaire de Paray-Saint-Césaire que j'ai croisé à l'époque, alors dans les années 90. Mm-hmm. En fait, mademoiselle Gillet, qui s'est mariée potier à la fin de mon année de CP.
Vous vous souvenez de tout, Julie, hein?
Oui, bah, elle m'a beaucoup marquée parce que justement, donc, mon année de CP, j'ai rencontré des grosses difficultés scolaires. J'avais du mal à suivre. Je faisais preuve de lenteur, dans les exercices. Et c'est grâce à cette institutrice formidable que j'ai pu réussir mon année de CP et ma scolarité par la suite. Je suis devenue de dernière de la classe. Je suis passée première. Voilà.
Comment, Julie? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Moi, je trouve que c'était une institutrice formidable parce qu'elle avait trois niveaux. Elle avait CP, CE1, CE2. Et elle prenait le temps avec chaque élève de s'asseoir et de montrer Et elle arrivait à manager trois.
Ah dommage Julie, parce que là c'est vraiment une belle histoire. On voulait en savoir plus sur Madame Potier, on va essayer de la récupérer. Farida est là aussi, bonsoir Farida.
Bonsoir.
Bon, on bascule d'un très très bon souvenir à un très très mauvais souvenir avec vous Farida.
Bah oui.
Vous habitez où ?
J'en ai un très mauvais et j'en ai un très bon, alors on va commencer par le très mauvais.
Allez, vous êtes en région parisienne Farida ?
Oui.
Et c'est là que vous avez été scolarisée ? À Boulogne-Billancourt, très bien.
Voilà, donc j'ai 55 ans. Et je vous parle d'une anecdote de mon enfance quand j'étais en CE1, CE2, dans Loir-et-Cher, à Savigny-sur-Braye. Et donc j'avais un professeur dont je me rappelle le nom, hein, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais bon.
Comme vous le sentez.
Bon, Monsieur Letard. Et en fait, alors que j'étais très bon élève déjà à l'époque, hein, et à l'époque on donnait des tableaux d'honneur, je ne sais plus si ça se fait encore aujourd'hui.
Oui, ça se fait, nous affirme Julie Van Rekem, qui est notre grand témoin ce soir. Oui,
voilà,
ça se fait encore.
Voilà, tableau d'honneur, prix d'excellence et tout ça. Et donc, j'étais très bonne élève. Et puis, son truc, c'était... Enfin, quand je dis son truc, entre guillemets, c'était pour punir un élève, c'était la fessée déculottée sur l'estrade, devant tout le monde. Et ça, pour moi, c'était rédhibitoire, quoi. Je ne pouvais pas. Et pourtant, j'avais que 7 ans, mais je pouvais pas. Et un jour, alors que jamais j'avais eu droit à la fessée, un jour, je ne me rappelle plus pourquoi, il me dit que je devais subir ce sévice, quoi. Et je me suis mise à hurler, à courir dans toute la classe. Il n'a pas pu. Donc ensuite, il s'est révolté, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la direction de l'école, c'est-à-dire la directrice, estimait que c'était légal, quoi. C'était normal de faire une fessée déculottée. Et mes parents, ils ont dit non, c'est insupportable. En fait, ce que je veux dire, allô?
Oui, on vous écoute attentivement, Farida.
Oui,
alors,
ce que je veux dire, c'est que très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Et j'ai pu en parler autour de moi à l'âge de 40 ans, quoi. Mais tout le restant de ma scolarité, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que l'on inflige ce genre de punition à des petites filles, à des petits garçons? Et c'est humiliant. Et puis, c'est surtout... moi, quand je le voyais, parce que j'ai vu quand même, hein, j'ai vu des élèves subir la fessée déculottée devant tout là. Et puis le
alors, évidemment, qui... évidemment, heureusement, les choses ont changé, Farida. Julie Van Rekem, quand une prof comme vous de 2016 entend ce témoignage, comment vous réagissez, Julie?
Je me dis que les choses, heureusement, ont bien changé et que ce soit dans les familles ou que ce soit à l'école, ce genre de... Oui, alors Farida a utilisé le bon mot, hein, humiliation, c'est humiliant, c'est volontairement humiliant, c'est l'école est un lieu où on en apprend par la peur. Non, ça n'existe plus. Ensuite, après, il y a des situations, il y a des professeurs, de temps en temps, dans les faits divers, des choses comme ça avec des humiliations. Je pense que vraiment, ça reste quelque chose du domaine du fait divers.
Heureusement, Farida, voilà. Il y a eu aussi de bons souvenirs. Vous me disiez qu'il y avait eu un très bon prof.
Oui, c'est qu'ensuite, je suis allée dans une école à Versailles et Madame Bruand, qui était ma maîtresse, j'étais en CM1, CM2, extraordinaire, parce qu'elle a vu que j'avais un souci et elle m'a vraiment prise en main. Et malgré le nombre d'élèves qu'elle avait, et elle était adorable, elle m'a écoutée, et en plus elle m'a fait aimer la peinture. Déjà, c'est à travers la peinture qu'elle m'a fait ressortir un peu ce...
Réconcilier un peu avec l'école aussi, peut-être, Farida.
Voilà, et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, déjà, elle l'avait très bien senti. Et elle savait que c'était pas à travers les mathématiques ou autre chose. Et comme on avait une heure de dessin par semaine, elle a senti que c'était à travers le dessin que je pouvais m'exprimer. Et je l'en remercie parce qu'aujourd'hui, je fais du figuratif onirique. Et c'est grâce à elle. Et je n'ai plus de contact avec elle, mais si elle pouvait être à l'écoute, je lui dis merci. Parce que c'est elle qui m'a appris et qui m'a aidée à extérioriser un peu ce mal-être. Mmh. Et elle m'a vraiment boostée pour rejeter un peu tout ça, quoi. Et j'ai rejeté un peu tout ça à travers la peinture.
Les profs qui sauvent, hein, il y en a, on entend Madame Druand, on se souvient des noms, c'est incroyable, même plusieurs dizaines d'années après. Voilà pour Farida. Et puis pour vous, Julie, c'était donc Madame Potier, hein, qui vous a beaucoup aidé en CP. Et du coup, vous êtes passée, quoi, de presque dernière de la classe à une des premières?
De dernière de la classe à première. Et je suis restée première de ma classe toute la primaire.
Ça a changé toute votre vie, en fait, ça, Julie? Hein.
Bah oui, parce que ça m'a permis, du coup, de passer de presque école spécialisée et de réussir la première et de réussir mes études.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études après?
J'ai fait la fac de droit de Nancy.
Et votre métier?
Je suis actuellement agent d'assurance.
Merci Madame Potier.
Merci Madame Potier, puisque grâce à elle, voilà, je suis agent d'assurance et je suis actuellement une formation niveau Bac plus 5 spécialisée dans la gestion patrimoniale.
Bravo. Et Julie, à travers cette aide scolaire, vous avez senti aussi une aide morale, psychologique, un bien-être?
Oui, elle était vraiment très douce, très gentille et formidable. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, j'aimerais vraiment la retrouver.
Madame Potier, si elle nous écoute, hein, voilà. Du côté de Pierreville.
Qu'elle contacte France Bleu. Je sais qu'elle était mariée, qu'elle était partie dans la Meuse. Et par contre, qu'elle a divorcé et après, pas de nouvelles.
Ça fait plaisir, hein, Julie Van Reckem, quand nos élèves nous retrouvent quelques années ou des années après.
Ah oui, et même l'année suivante, hein, simplement des troisièmes qui ont eu le brevet, sont partis dans un lycée et qui reviennent pour une réunion parents-prof, juste dire « Bonjour madame, comment vous allez ?»« Moi ça va super bien. » Rien que ça, quelques mois plus tard, on se dit « Oh, ils ont grandi, ça y est, c'est des secondes. » On se dit, on a réussi à les mener jusque-là, pas moi, mon équipe. Tous les profs autour de moi, avec moi, on a réussi à les mener jusque-là. C'est un travail d'équipe.
C'est gratifiant. Vous avez entendu Julie qui parle de Madame Potier presque avec amour.
Ah oui, et puis la demande, voilà, si elle nous écoute, il faut vraiment qu'elle prenne contact avec France Bleu.
Le message est passé, Julie, on croise les doigts. 0810 055 056. Continuez à témoigner sur France Bleu. Vous nous racontez vos souvenirs avec vos profs ce soir.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, pour réagir aux émissions, s'informer, se divertir, téléchargez la nouvelle application mobile France Bleu.